Bonjour chers auditeurs, Henri de Villiers au micro de Radio Courtoisie. Bienvenue comme chaque semaine à pareille heure dans cette émission consacrée à la liturgie et à la musique sacrée. Lauda Sion Salvatorem, Lauda Ducem et Pastorem, in hymnis et canticis, loue Sion ton sauveur, loue ton chef et ton pasteur par des hymnes et des cantiques. Quantum potes tantum aude, quia major omni laude, nec laudare sufficis. Ose autant que tu peux, il est au-dessus de toute louange, tu ne peux le louer assez. Si vous êtes fidèle auditeur de cette émission, vous savez que c'est aujourd'hui notre quatrième volet consacré au Lauda Sion Salvatorem, la séquence de la fête Dieu, de la fête du corps du Christ que nous avons célébrée au début de ce mois de juin et qui nous a accompagnés tout au cours de ce mois de juin dans une vraie vaste fresque musicale qui retrace 900 ans de musique sacrée autour de ce texte composé par saint Thomas d'Aquin. La première émission était consacrée bien sûr au plein chant originel, c'est d'ailleurs un chant qui n'est pas de la composition de saint Thomas d'Aquin qui n'a fait que le texte, mais le chant a été établi sur une séquence plus ancienne composée par Adam de Saint-Victor, chantre de Notre-Dame de Paris, et qui s'appelait Laudes Crucis Atolamus, et comme son nom l'indique, était la séquence de la fête de la croix, plus exactement la fête de l'invention de la Sainte Croix au début du mois de mai. Et cette séquence, cette musique était elle-même établie sur l'Alléluia de cette messe, Dulces Lignum, Dulces Clavus, en tout cas à Paris, dans l'ancien rite médiéval parisien. Alors, nous avons ensuite, donc au cours de cette première émission, de ce premier volet consacré au Lauda Sion, nous avons évoqué les tout premiers exemples anciens de la fin du 15e siècle, début du 16e siècle d'Antoine Brumel et de Roland de Lassus. Puis nous avons, dans un deuxième volet, exploré le Lauda Sion parmi les grands compositeurs de la Renaissance, du contrepoint Renaissance, comme Palestrina, Marc-Antoine Gegneri, Victoria. Nous avons ensuite écouté d'autres exemples des débuts du baroque. Dans un troisième volet, nous avons continué notre exploration du Lauda Sion à travers les âges au XVIIIe siècle et abordé le XIXe siècle. Ce dernier volet, bien sûr, très logiquement, va reprendre là où nous en étions au XIXe siècle et aller jusqu'à un enregistrement, une création contemporaine d'une dizaine d'années autour de ce merveilleux texte de saint Thomas d'Aquin. Alors bien sûr, quand on parle Lauda Sion, l'exemple musical qui vient souvent à l'esprit, en tout cas pour nos contemporains, c'est le fameux Lauda Sion de Mendelssohn. Alors Félix Mendelssohn Bartholdy a effectivement composé une cantate pour quatre voix, chœur et orchestre, opus 73. Cette œuvre de la part d'un luthérien venant d'une famille d'origine juive est un peu étonnante, en tout cas puisque ce texte Lauda Sion est éminemment catholique et développe la théologie traditionnelle de l'Église catholique sur la transsubstantiation, le changement des substances du pain et du vin qui deviennent corps et sang du Seigneur lors de la messe. Cette œuvre est datée de 1846, du 11 juin 1846, c'est effectivement cette année-là le jeudi de la fête Dieu, et il s'agissait surtout du 600e centenaire de l'institution de la fête Dieu en 1246 par le prince évêque Robert de Tourotte, évêque de Liège, qui s'est rendu au supplique de sainte Julienne de Montcornillon, à qui le Christ était apparu. Notre Seigneur avait dit à sainte Julienne qu'il manquait une fête dans l'année liturgique. Elle avait d'abord eu la vision de la lune dans laquelle il manquait un croissant, et on lui faisait entendre ainsi qu'il fallait une fête pour honorer le corps du Christ de façon plus solennelle. Alors, cette œuvre donc fut composée au 600e anniversaire de la fête du à Liège, Liège qui encore aujourd'hui s'attache à donner un soin tout particulier à la messe de la fête Dieu et à la procession du Saint-Sacrement, puisque c'est là où ces deux solennités ont été instituées historiquement en 1246. L'exécution de l'œuvre de Mendelssohn, opus 73, eut lieu dans la basilique Saint-Martin de Liège. Et en fait, cette exécution n'a pas, semble-t-il, trouvé grâce à l'époque. En tout cas, c'est ce que rapporte le musicologue du 19e siècle, bien connu, Félix Clément, qui indique que les fidèles ont trouvé que c'était très inférieur à la séquence en plein chant que l'on avait chantée, et donc à la procession. Et donc l'œuvre tomba dans l'oubli, un certain oubli, mais qui a été réparé au XXe siècle, puisque la musique de Mendelssohn a retrouvé les faveurs du public globalement, et en particulier ce Laudation qui est souvent donné notamment par des anglo-saxons. Nous allons néanmoins écouter ici un ensemble allemand, le Württembergische Philharmonie de Rautlingen et le chœur de chambre d'Europe interpréter ce magnifique Laudation de Félix Mendelssohn Bartholdy.
Thank you. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Nous venons d'écouter le Laudation composé par Félix Mendelssohn pour le 600e anniversaire de la fête du à Liège, le 11 juin 1846, opus 73. Notons que Mendelssohn avait un peu dissimulé quelques aspects symboliques dans son œuvre. Par exemple, dans le 5e mouvement, vous avez entendu le chœur chanter à l'unisson 3 fois la mélodie du plein chant, et c'était dans l'optique de Mendelssohn un hommage rendu à la Très Sainte Trinité. Nous allons continuer notre exploration du Laudation avec une très belle œuvre d'Henri Maréchal. Alors Henri Maréchal, qui est né en 1842, meurt en 1924, et un contemporain de Fauré, mais peut-être un peu moins connu que Fauré. Son Laudation, écrit pour l'orgue initialement, est ici interprété au piano, transcrit et réduit au piano par Marina Pierova.
Thank you.
Ecce panis angelorum, factus cibus viatorum, vere panis filiorum, non mitendus canibus. Voici le pain des anges, rendu pain des voyageurs de ce monde, il est le pain véritable des fils qu'on ne doit pas jeter aux chiens. In figuris presignatur, cum Isaac immolatur, agnus pasce deputatur, datur mana patribus. D'avance il fut préfiguré par l'immolation d'Isaac, par le sacrifice de l'agneau pascal, par la manne donnée à nos pères. Il s'agit des strophes qui se situent plutôt vers la fin, les deux avant-dernières strophes du Laudation, qui sont bien connues puisque ce texte Ecce Panis Angelorum a été aussi amplement repris comme texte de motet. J'aurais pu d'ailleurs faire une émission complète sur ce texte, évidemment. Notons un peu la structure poétique. Je l'avais évoqué dans la première émission pour les premières strophes qui sont de trois vers chacune. Là, on passe à une section vers la fin du Laudation qui est fort long. Une section où les strophes passent à quatre vers, mais où on retrouve la même astuce poétique qu'au début, c'est-à-dire que dans ces strophes à quatre vers, les trois premiers vont rimer entre eux, et puis le quatrième va rimer avec la strophe qui est en pendant. Donc là, par exemple, Ecce panis angelorum, on a ensuite viatorum filiorum, rime en hum, et on finit par non mitendus canibus. De même, la strophe qui lui fait pair est en our, in figuris presignatur, immolatur, deputatur, et ensuite le dernier vers, datur mana patribus, rime avec le canibus de la strophe Ecce panis. Donc on a une poésie latine médiévale avec des rimes, ce qui est étranger bien sûr à la poésie latine antique. Hein. On voit que ce sont des textes qui sont composés au XIIIe siècle, assez tardivement dans l'histoire de la latinité. On a vu donc des exemples musicaux pendant quatre émissions. Nous continuons, ce n'est pas fini, avec une œuvre de Jean Langlais. Jean Langlais qui est né en 1907 et qui meurt à Paris, 15e arrondissement, en 1991, a laissé un Laudation Salvatorem où le plein chant alterne avec l'orgue. Donc c'est une technique très ancienne hein, qui est déjà canonisée par le Concile de Trente au XVIe siècle, la pratique de l'alternance où un chœur de plein chant chante une strophe et l'autre strophe est figurée par l'orgue qui chante en quelque sorte. Donc voici l'œuvre de Jean Langlais interprétée par l'ensemble vocal Ad Limina avec Emmanuel Le Divellec à l'orgue. Nous poursuivons notre exploration en guise de fresque musicale du Laudation avec une composition contemporaine d'un compositeur et organiste et chef d'orchestre hollandais, Johan Herman Strategier, qui naît en 1912 et meurt en 1988 en Hollande. Il a étudié à l'école de musique sacrée catholique romaine d'Utrecht dans sa jeunesse, et c'est peut-être en cela qu'il nous laisse Laudation Salvatorem, écrit pour chœur et interprété par le Sacramentschor de Breda. Nous écoutions le Sacramentschor de Breda sous la direction d'Henri de Grauff, interprété le Laudation Salvatorem, composition du chef d'orchestre, organiste et compositeur hollandais Johan Herman Strateger. Nous allons terminer. Alors, il y a d'autres compositeurs contemporains qui ont écrit sur le Laudation. J'en ai choisi un très intéressant, un compositeur hongrois, George Orban. Alors, peut-être un parent du premier ministre actuel, mais Györgyi Orbán, donner la forme hongroise de son nom. C'est un compositeur hongrois toujours vivant qui est né en 1947. Et nous allons écouter le prestigieux chœur sud-africain de l'université de Stellenbosch qui nous l'interprète dans un enregistrement daté de 2015. Nous avons donc maintenant terminé cette vaste fresque musicale en 4 épisodes consacrée à ce merveilleux texte de saint Thomas d'Aquin, Laudation Salvatorem, en l'honneur de la Sainte Eucharistie, la séquence de la fête Dieu. Je vous donne rendez-vous à dimanche prochain, mais nous allons aborder d'autres thèmes musicaux et je vous souhaite un excellent dimanche. Restez à l'écoute de Radio Courtoisie.
Vous venez d'entendre Liturgie et musique sacrée, une émission proposée par Henri de Villiers, diffusée sur Radio Courtoisie dimanche 28 juin 2026 de 15h à 16h et réalisée par Benoît.